L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h, les circuits courts de l'information. Aujourd'hui, les circuits courts de la production et la transformation. On s'excuse par avance, ce sera exceptionnellement par téléphone parce qu'on a découvert un cas de Covid à la radio. On a dû renvoyer dehors nos invités. Alors, voici donc, c'est déjà le deuxième rendez-vous de la saison avec le réseau paysan et rural CIVAM. Aujourd'hui, on produit, on transforme, car les agricultrices, agriculteurs, éleveuses, dont les exploitations sont de taille raisonnable, notamment celles et ceux qui sont en bio, passent de plus en plus de l'autre côté aussi. Ces productrices, producteurs, transforment. Voici les charcuteries produites à la ferme, les confitures faites au verger, les yaourts, les glaces, les fromages. Ça va de pair avec la vente directe à la ferme. Ça permet de contrôler le devenir de ce qu'on produit. C'est du circuit ultra court en fait. Et c'est notamment ce que fait Alain Jacob, qui est éleveur laitier et désormais fromager à Saint-Cadou. Et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alain.
Bonjour.
Isor Solet du CIVAM est aussi là, donc par téléphone dehors, bien loin de nos microbes. Bonjour Isor.
Bonjour.
Alors, question d'abord pour le CIVAM. Cette tendance à la double activité production-transformation, c'est une tendance plutôt forte ou c'est encore minoritaire ?
Disons que, alors on n'a pas les chiffres exacts, on a juste les chiffres des installations aidées, mais en 2018, il y avait 7% des installations en Bretagne, donc sur environ 400, qui s'installaient en transformation, de tout type de transformation. Donc voilà, et nous on considère que au sein du CIVAM, on voit passer à peu près 3, 4, 5 porteurs de projets par an qui s'installent en transfo laitière.
Donc ils s'installent dès le départ ou en fait est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà installés en production puis tout à coup qui vont transformer en plus quoi ?
Alors nous, les personnes qu'on accompagne en majorité, c'est des personnes qui vont réfléchir leur installation avec de la transformation dans leur projet. Après, il peut arriver que des paysans déjà installés en élevage laitier rajoutent un emploi sur la ferme avec de la transformation.
Alain, Jacob, alors au départ, vous, à Saint-Cadou, vous ne faisiez que de l'élevage, c'est ça ? Comment, quand ça se passe ? Est-ce que vous pouvez raconter déjà un peu votre parcours d'éleveur ?
Non. Moi, j'ai toujours transformé. Je suis paysan depuis 1992 et j'ai toujours fait de la transfo. J'ai toujours transformé mon lait parce que ça me semblait une évidence. C'était à la fois une évidence économique parce que c'était la façon pour moi de rentrer de façon un peu moins onéreuse dans le monde de l'agriculture, plutôt qu'acheter une ferme avec son poids financier qu'entraînait. Et puis si je dois tout raconter...
Oui, il faut tout raconter, on a le temps.
J'étais salarié agricole quand j'étais jeune et j'en ai eu un peu... J'avais pas retrouvé ce que j'allais chercher dans ce monde-là. Remplir des tanks à lait, de lait, ça me parlait pas vraiment.
Ouais, il n'était pas question de faire du minerai,
donc,
quoi.
Je suis parti apprendre à faire du fromage en Haute-Savoie.
Ah ouais.
Et je suis revenu en Bretagne. Et puis, petit à petit, après un parcours un peu compliqué, j'ai réussi à me trouver une petite ferme dans les Monts d'Arrée. Une ferme dans les Monts d'Arrée. Et voilà, depuis 92, je transforme le lait de mes vaches.
Mais alors, apprendre à faire du fromage en Haute-Savoie, déjà, ça dure longtemps, les formations. Puis qu'est-ce qu'on apprend exactement ? Parce qu'en Haute-Savoie, on pense à des fromages spécifiques.
Comment, Le reblochon.
Reblochon, ah ouais, d'accord.
Ouais. C'était pas une formation. Moi, je suis parti en alpage. Je suis parti travailler en alpage pendant une saison d'été et dans un chalet où tout le lait des vaches était transformé. Donc voilà. Donc j'ai appris sur le terrain.
Et c'était que du reblochon ? Ou est-ce qu'il y avait aussi du Beaufort, des fromages ?
Non, il n'y avait pas de Beaufort. Il y avait du reblochon, il y avait de la tome de Savoie, il y avait de l'abondance. Voilà, il y avait déjà trois fromages. C'était ce qui me donnait déjà une base. Une bonne base pour faire de la transformation. Et d'ailleurs, je suis resté dans ce schéma-là parce que Aujourd'hui, sur ma ferme, enfin, de tout le temps, j'ai toujours fait que des pâtes pressées. J'ai jamais été faire du fromage blanc, de la crème, du beurre. Non, je n'ai fait que un fromage de garde qui me donne une certaine souplesse au niveau de la vente.
Ah oui, parce qu'il faut expliquer peut-être la différence pour les auditrices et auditeurs. Pâte pressée, pâte cuite, pas cuite. Enfin, c'est quoi en gros une pâte pressée?
Ouh, m'a doué.
Et oui, c'est compliqué le fromage, je sais. Non,
bon,
mais.
Le fromage se divise à peu près en quatre grandes familles. Hein. Il y a les produits frais, les pâtes présures, on va retrouver les camemberts, les pâtes pressées non cuites, on va retrouver les tomes de Savoie, hein, tout ce genre de fromage, les reblochons, le Saint-Nectaire, le Morbier. Et puis après, dans les pâtes pressées cuites, et ben là, on va retrouver, c'est tout ce qui est au-dessus de 45-48 degrés. Et là, on va retrouver le Beaufort, l'Abondance, le Comté, tous ces fromages-là, les Gruyères.
Donc à Saint-Cadou, vous faites une pâte pressée non cuite, c'est ça?
Moi, je fais une pâte pressée non cuite, je fais une pâte pressée cuite. Je fais les deux.
Ok, donc ça fait deux types de fromages.
Toujours les cinq, je fais aussi de la raclette, je fais aussi une petite tome de Savoie, et puis voilà. Mais je fais que des pâtes pressées cuites et non cuites, mais des pâtes pressées, il y en a autant qu'il y a. C'est un peu comme le phare en Bretagne, il y a autant de phares que de gens à le faire.
Oui,
c'est ça. Les fromages, chacun a sa façon de le faire, son petit truc, sa petite manière. Donc c'est pour ça que ça change d'une ferme à l'autre.
Et donc les pâtes pressées se gardent mieux, c'est ça, que d'autres
types? Il y a un délai d'affinage, et puis après, on peut les vendre plus ou moins affinées, plus ou moins fortes, plus ou moins. Voilà, les pâtes cuites, ça me donne une bonne souplesse de vente, ça me permet de stocker mon lait pendant 6 mois, 8 mois. Et je vends mes fromages à mes pâtes cuites, je les vends à 6 mois, 8 mois, 9 mois. Ça me donne s'ils ne sont pas vendus le jour J, ils seront vendus le jour K.
Donc quand vous avez fait votre formation en alpage, vous êtes dit, bon, c'est bon, là je suis sûr. Enfin, qu'est-ce que vous avez retiré de ce stage au long cours, on va dire?
Eh bien, ce que j'ai retiré, c'est que j'ai cru que je savais que c'est bon, que je pouvais m'installer. Et j'ai fait une première installation catastrophique. C'est-à-dire que quand je me suis installé, c'était la première fois en 88, tout seul dans un coin, à Tréhargat, dans le Nord Finistère. Et j'ai cru que voilà, c'était simple, j'allais faire comme je faisais en montagne. Mais voilà, il n'y avait pas la même ambiance, il n'y avait pas la même vache, il n'y avait pas le même lait, et ça ne marchait pas. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de CIVAM.
Ah oui, il n'y avait pas de réseau.
À l'époque, il n'y avait pas de CIVAM qui était là pour réunir les gens qui transformaient et partager un peu les savoir-faire. C'est un peu le travail qu'on fait dans les CIVAM, c'est de réunir les gens et puis de partager un peu nos techniques, nos savoirs. Voilà.
Mais comme il n'est pas honteux de tomber, mais de rester par terre, vous n'êtes pas resté par terre. Et donc, quand est-ce que vous avez recommencé, juste après l'échec, vous avez refait un stage, qu'est-ce que vous avez fait?
Eh ben, pour la petite histoire, je me suis retrouvé fromager pendant 6 mois à Sarriwal, où en 1989 avait débuté une petite fromagerie collective. Une Cuma, d'ailleurs, c'était sous forme de Cuma.
Et voilà, donc c'est coopérative d'usage mutualisé, c'est ça, agricole?
Voilà, il y avait six ou sept, je ne sais plus, producteurs qui emmenaient du lait. Donc voilà, et moi, j'étais là pour le transformer. C'est une belle expérience aussi.
Ouais, ça vous a apporté quoi, cette expérience?
Je suis resté dans les monts d'arrêt.
Déjà, ça vous a apporté les monts d'arrêt. Et puis quoi d'autre, éventuellement, cette expérience de ne faire que de la transformation?
Eh bien, qu'il manquait les vaches pour moi.
Alors, quand vous. Ouais.
D'où l'idée de. Cette idée de paysan fromager, je pense que j'ai fait partie de ceux qui se sont un peu définis sous ce nom-là. Et je suis revenu sur cette idée-là. On ne peut pas être un paysan fromager. On est un paysan qui fait du fromage. Mais un paysan, comme un paysan qui fait du fromage, ça traite ses vaches, ça sort ses vaches, ça sème des pâtures, ça fait du foin, ça bine ses betteraves, et puis ça fait du fromage. Mais voilà, je pense que c'est réducteur de s'intituler comme paysan fromager. On est des paysans, on va au bout de la logique, on transforme notre produit. C'est peut-être là quelle est la définition du mot paysan, d'ailleurs, par rapport au mot agriculteur, où l'agriculteur va produire une matière première qui va être transformée et revendue par une coopérative, un privé. Le paysan, lui, c'est celui qui existait avant les années 50-60, qui va valoriser sa production lui-même.
Et parce que c'est important, peut-être, quand on transforme, de contrôler la qualité du produit originel, à savoir le lait aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même fromage selon la façon dont on élève ses vaches, je suppose.
Oui, selon la race des vaches, selon les pâtures qu'on aura. Si on... C'est pour ça que, oui, même qu'on soit en bio ou pas en bio, si on est très extensif, si on est très extensif en conventionnel, on aura peut-être un meilleur fromage que quelqu'un qui sera intensif en bio.
Et alors, oui.
Allez-y.
Ouais, quand vous êtes réinstallé donc à Saint-Cadou, qu'est-ce que vous avez choisi déjà comme vache et puis comme dimension justement de nombre de vaches, etc.
J'ai démarré avec trois vaches, trois Montbéliardes et avec 5-6 hectares. Et puis après, les choses se sont... Le foncier, là-dessus, on n'a aucune prise. Hein. On est complètement tributaire du marché, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, c'est un marché. On va dire que c'est le marché de la prime. Hein, puisque les hectares, à chaque hectare est loué une prime. Donc aujourd'hui, pour trouver de la terre, c'est pas facile. C'est de la difficulté pour les jeunes pour s'installer. Et pour ceux qui sont installés et qui n'ont pas trop de terre, il faut se battre tout le temps pour avoir un peu plus de terre. Ça, c'est une aparté. Je ne sais plus quelle était la question.
Déjà, pourquoi le choix des Montbéliardes ? Est-ce que c'est toujours des Montbéliardes ?
Ouais. D'accord, je suis parti sur ces races de vaches parce que ce sont des vaches fromagères. La Montbéliarde, c'est la vache du comté. Et petit à petit, je me suis rapproché de la vache Abondance, qui est une vache plus rustique, qui est un peu à la Savoie, ce que la Pinot Bretonne est à la Bretagne. Donc c'est une vache un peu plus rustique, qui fait moins de lait, mais qui a moins de soucis de santé, et qui fait un lait beaucoup plus fromageable, encore plus fromageable qu'une Montbéliard.
Ah oui, parce qu'il est plus gras, c'est pour ça ?
Non, c'est pas une histoire de matière grasse, c'est une histoire de caséine. Il y a dans le lait de l'Abondance, il y a des caséines fromageables qui sont en plus grande quantité.
Et donc maintenant, vous avez combien de vaches ? Et c'est uniquement des Abondances ?
Ah mais non, j'ai quintuplé mon troupeau. Ce qui est honteux. J'ai 15 vaches en monotraite avec une ferme herbagère. Il n'y a que des pâtures, des vieilles pâtures en général. Ils font aussi, je pense, un meilleur fromage. Voilà.
Et uniquement des Abondances alors ? Les Montbéliardes s'en sont allés ?
Il y a toujours un peu. Il y a un peu de croisement qui reste.
Donc une traite par jour, c'est ça ? Et est-ce que c'est toute l'année la traite ?
J'ai pas compris.
C'est une traite par jour et est-ce que c'est toute l'année ?
Une traite par jour, mais toute l'année.
Bon, et donc comment vous organisez votre journée pour cumuler donc élevage et transformation ?
Eh ben ma journée, la traite le matin et puis dans la foulée on transforme le lait. Et puis après, c'est la transpo. Toute la matinée, c'est le lait, la traite et la transformation. Et puis après, les journées après seront différentes selon la saison, selon le travail qu'il y a à faire. Voilà.
Oui, parce qu'elles sont nourries entièrement, quasiment en autonomie à la ferme, c'est ça, les vaches. Hein
ouais, on est complètement autonome au niveau des vaches. C'est-à-dire que sur la ferme, aujourd'hui, on a aussi des cochons. On a fait le lien avec la transformation laitière qui laissait quand même un résidu important. Il me reste 40 000 litres de petit lait tous les ans.
Alors c'est quoi donc le petit lait ?
Le petit lait, c'est ce qui reste après avoir fait le fromage. C'est-à-dire qu'il reste encore une certaine richesse dans ce petit lait qui, d'ailleurs, dans certaines régions en France, on fait des spécialités fromagères comme la brousse ou le sérac. C'est-à-dire qu'on fait bouillir ce petit lait et puis on fait flocculer les dernières protéines qui restent dedans. Et nous, en Bretagne, en général, ce qui se passe, c'est plutôt donner le petit lait aux cochons. 10 litres de petit lait, c'est quasiment un kilo d'aliments pour les cochons. Donc on a le lien, on a une espèce de continuité dans l'élevage et on fait du fromage, il reste du petit lait qui nourrit des cochons et qui sont aussi transformés à la ferme.
Et qui sont délicieux, en plus les cochons nourris au petit lait, c'est
des porcs blancs de l'Ouest.
Donc en fait, en plus c'est du zéro déchet, on peut dire.
À ce niveau-là, ouais, c'est du zéro déchet, ouais. Et puis vraiment une valorisation complète d'une matière première.
Et donc les vaches sont nourries au pré essentiellement, puis un peu de culture aussi pour les nourrir l'hiver ou...
Des betteraves.
Bon.
Voilà, des betteraves pour l'hiver et puis du foin. Foin et puis beaucoup moins de lait en hiver, un lait plus gras. Donc en hiver, je fais qu'un seul fromage. Et puis après, dès que le printemps revient, on relance toute la variété des fromages, sauf la raclette, là, que je commence à faire juste à cette saison, pour essayer de faire des raclettes jusqu'au mois de janvier. Quoi.
Oui, ça fait un temps d'affinage qui est assez long pour chaque... Enfin, qui est différent, j'imagine, pour chaque fromage aussi.
Ouais, 5-6 semaines pour les fromages comme les tomes. Et puis après, 4 à 6 mois pour... 4 mois pour une des... Parce que je fais deux pâtes cutes différentes. Et 4 mois pour... pour un de mes fromages et plus de 6 mois pour l'autre.
Oui, c'est ça. Et donc ça laisse le temps aussi après de vendre. Alors comment est-ce que vous vendez les fromages? Quels sont les circuits?
Oh là là.
En gros.
Là, ça m'a jamais. S'il y a bien un truc qui m'intéressait pas dans mon métier, c'était la vente. Donc aujourd'hui, j'ai la chance que ma femme elle est restée à la maison et puis c'est elle qui vend les fromages. Donc ça m'a tiré une épine du pied, je veux dire, parce que vraiment ça me plaisait pas. Je me suis longtemps appuyé sur le réseau des Biocop qui à l'époque n'avait pas beaucoup de fromage breton, donc était content de trouver un paysan dans le coin qui vendait du fromage. Et aujourd'hui, une grande partie, je vends plus beaucoup dans les Biocop, où aujourd'hui il y a beaucoup de fromage d'ailleurs. Et je vends quasiment tout entre le marché et les magasins de producteurs, les 4 magasins de producteurs auxquels on participe. Donc celui de Gouazven, ici à Daoulas, à Logona Daoulas, celui de Sarriwal, le Bronaré, à Biotitude, à Briec, et Loc Maria, à Quimper. Alors, ça serait faire un peu de pub pour les magasins de producteurs.
C'est bien normal.
Et mes collègues qui vendent avec moi. On est dans chaque magasin de producteurs, on est entre 20 et 30 producteurs.
Et le fait d'être en bio, j'imagine, est important pour gagner sa vie.
Non. Je partirai pas dans ce schéma-là, parce que dans cette idée-là, parce que être en bio, c'est d'abord un choix personnel. J'ai été en bio sans avoir pris la certification. Être en bio, c'est bien, mais non, c'est pas une fidélité. Aujourd'hui, on peut être en bio et puis ne pas être peut-être quelqu'un de très raisonnable ou quelqu'un de très intéressant ou quelqu'un de. On peut avoir une très grosse ferme, être en bio et vouloir la terre du voisin. Bio, c'est un cahier des charges pour une certaine qualité des produits et bon, c'est bien pour le consommateur. Après, pour le producteur. Moi, je m'entends très bien avec mes voisins qui sont en bio et pas en bio.
Donc, on peut être en conventionnel, entre guillemets, faire du fromage, du lait et du fromage, et s'y retrouver tout à fait financièrement, gagner sa vie. C'est ça, en fait. C'est une question d'avoir intégré ou pas la transformation pour gagner correctement sa vie.
Bah voilà, faut trouver un équilibre parce que c'est quand même c'est un choix qui va aussi demander beaucoup plus de travail parce qu'on va être on va produire du lait, on va transformer ce lait et après il va falloir le vendre. Donc c'est trois métiers en un. C'est sûr que ça, donc faut trouver un équilibre entre la quantité de lait qu'on va transformer qui va nous permettre de lait ou d'autres choses qui vont nous permettre de vivre quoi. Aujourd'hui, sur la ferme, on a trouvé l'équilibre. On est avec un salarié, on est 4 sur la ferme. Si on prend ma femme aussi, moi, mon fils qui est en GAEC avec moi, ma femme qui est conjoint exploitant, et puis un salarié, on est 4 sur la ferme.
Avec 15 vaches.
Sur 35 hectares. Et il y a quand même 8 truies aussi.
Ah oui, et les 8 truies, bien sûr.
Il y a 8 truies aussi.
Et donc, au final, vous diriez quelles ont été les difficultés de cette expérience au départ?
La difficulté pour pour moi au départ, ça a été justement ce manque de lien avec d'autres agriculteurs qui faisaient la même chose que moi. Et donc de partir sans vraiment, avec des paramètres trop flous. C'est pour ça que le CIVAM a été une grande chance pour tous les jeunes qui s'installent aujourd'hui de pouvoir participer à ce genre de structures qui vont leur permettre un peu de mieux préparer leur installation et après tout au long de leur installation, tout au long de leur carrière, continuer à performer quoi.
Et Isor Soleil, justement, le CIVAM dans ce domaine-là, transformation, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que le CIVAM propose?
On propose à la demande du coup des paysans tous les ans une formation sur un type de fromage différent en fait. Donc ça c'est à peu près une fois par an. Et puis on propose du lien aussi, des échanges, des contacts, bien évidemment quand on nous en demande. Et puis depuis une bonne année maintenant, on essaie de un petit peu plus formaliser, on va dire, le groupe d'échange entre les paysans transformateurs en fromage et pour réfléchir sur les conditions de travail de ce métier, notamment sur les produits, l'organisation du travail, le matériel. Par exemple, en janvier, on va faire une soirée d'échange sur la conception des locaux de fromagerie, pour permettre à chacun de s'inspirer des autres et de voilà.
Et quand vous parlez de transformation, pour l'instant au CIVAM, c'est essentiellement transformation fromagerie, c'est ça?
Alors ça c'est le groupe Transfo Fromage. Après on réfléchit, on a des groupes sur d'autres types de transformation, la transformation du cochon par exemple, la découpe, ça on a eu une formation là-dessus, on a eu des journées d'échange aussi sur la transfo des légumes pour les conserver, après c'est vrai que le groupe de transfo fromage est peut-être celui qui est le plus conséquent.
Et Alain Jacob, alors vous diriez que la Bretagne devient une terre de, enfin le Finistère devient une terre de fromage?
Je pense que pour que le Finistère ou la Bretagne deviennent une terre de fromage, il faudra que les agriculteurs ils fassent encore plus de liens. Parce que là, à la rigueur, on a fait un lien technique en se retrouvant de temps en temps pour échanger nos savoir-faire. Mais je pense qu'il faudra aller plus loin et puis peut-être les plus jeunes dans les années à venir, essayer de se fédérer pour avoir pourquoi pas un produit qui sera transformé de façon collective ou au moins sous un même cahier des charges et puis essayer de faire le même produit pour arriver à bien être présent sur le marché et être reconnu pour ce travail-là.
Oui, avoir une qualité homogène, c'est ça?
Voilà, trouver... vraiment un peu, c'est ce qui a fait la richesse de toutes les régions du on va dire en dessous de la Loire. On a toutes ces fabrications qui sont collectives et qui donnent vraiment une couleur locale, vraiment.
On a quand même des voisins qui sont au-dessus de la Loire, c'est les Normands qui font du fromage depuis longtemps.
Oui, on les a oubliés, excusez-moi.
Quel honte, le camembert.
J'adore le camembert.
Il n'y a pas encore de camembert finistérien, enfin je ne crois pas, mais...
Si, vous avez un camembert chez les Quadou à Ponébé du Fou. Faudra les inviter.
Ah ben en effet, on les invitera. On va terminer peut-être, Isor, avec quelques actualités du CIVAM. Il nous reste une minute à peu près. Alors qu'est-ce qu'on va raconter?
Dans les actualités du CIVAM, il y a un moratoire qui a été lancé sur la méthanisation par Eaux et Rivières de Bretagne, la Confédération Paysanne, le GAB, le CIVAM. Donc du coup, il y a une pétition en ligne sur le site d'Eaux et Rivières de Bretagne.
On a fait une émission là-dessus.
Voilà, et puis on va bientôt, le 15 novembre, on organise une fête à Quéréderme, dont on a déjà parlé sur votre antenne, avec des habitants et des producteurs, notamment il y aura un débat sur, pour l'instant, le thème s'oriente sur qu'est-ce que la démocratie alimentaire.
Quéréderme, c'est un quartier de Brest, je précise.
Pour les petits et les grands, de transformation de citrouilles plantées par les habitants de Quéréderme, et voilà, une journée... autour de ces questions-là.
Ouais. Quéréden, c'est un quartier de Brest où on essaye de faire en sorte que l'alimentation, la bonne alimentation soit accessible, c'est ça ?
Exactement, ouais. En tout cas, on y réfléchit.
Bon, bah, on va vous remercier tous les deux, Alain Jacob et Isor Solet du CIVAM, pour avoir réalisé cette interview à distance pour cause de virus que vous connaissez bien maintenant et qui nous a pris de court en dernière minute. J'espère que la qualité sonore n'aura pas trop dérangé les auditrices et les auditeurs. Puis on donne rendez-vous au CIVAM dans un mois.
Ouais.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
L'émission.